Les séminaires du Collège de France.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, rebonjour à celles et ceux que j'ai vus ce matin. Bienvenue dans cette quatrième séance de notre séminaire Droit de la science. Nous avons le bonheur cet après-midi d'accueillir Olivier Beau. Olivier Beau, que vous connaissez toutes et tous, mais que je présente avec plaisir. Il est professeur de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Il y a été directeur de l'Institut Michel Villet pour la culture juridique et la philosophie du droit de 2006 à 2018, avant d'en devenir le directeur adjoint. Olivier Beau est spécialiste de droit constitutionnel et de philosophie du droit, avec toutes les combinaisons possibles. Ses recherches portent sur le droit constitutionnel français étranger, le droit constitutionnel comparé, la théorie générale de l'État, la philosophie du droit, bien sûr, et l'histoire de la pensée juridique. Sur un thème comme le droit de la science, il ne m'était pas possible de ne pas inviter Olivier Beau. Donc c'est un grand plaisir, dans la mesure où, nous le savons, son travail sur la liberté académique en France, mais aussi ailleurs, nous a beaucoup éclairé ces dernières années. Je mentionne notamment ses deux ouvrages, « Le savoir en danger, menace sur la liberté académique », paru en 2021, et en 2010, « Les libertés universitaires à l'abandon pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique ». Si vous n'avez pas lu ces livres, je vous les conseille vivement. Vous en aurez, j'imagine, un avant-goût déjà cet après-midi. Donc un tout grand merci, cher Olivier, d'avoir accepté cette invitation. Comme à l'ordinaire, tu as une heure, 50 à 60 minutes pour parler. Et ensuite, j'entamerai la discussion avec toi et j'ouvrirai avec nos auditeurs. Je vais m'asseoir ici pour mieux te voir. C'est pas parce que je fuis, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup, Samantha, pour cette invitation à parler dans ce cadre prestigieux. Je vais essayer de traiter du sujet qui est droit de la science, mais on m'avait mis aussi liberté académique. Et donc, je vais essayer de combiner plus ou moins habilement les deux thèmes, c'est-à-dire essayer d'expliquer la liberté académique, qui est en fait un concept qu'on connaît mal en France, et expliquer aussi ou décrire exactement le droit de la liberté académique. Et je vais surtout me concentrer sur le cas français, même si évidemment des cas étrangers seraient à étudier. Alors évidemment, au départ, je me suis dit comment est-ce qu'on peut distinguer la question de la liberté académique de l'autre concept qu'on utilise en Allemagne, qui est le concept de liberté scientifique. En Allemagne, l'article 5 de la loi fondamentale reconnaît l'existence de cette liberté scientifique, puisque cet article 5 est principalement consacré à la liberté d'opinion, a un alinéa, le dernier alinéa, l'alinéa 3, qui dispose, je cite l'article 3, « L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution. » Donc on voit que en Allemagne, on a effectivement un concept qui est reconnu, qui est le concept de liberté scientifique, qui apparaît dans ce premier, dans cet alinéa 3, même si le terme de liberté scientifique n'est pas explicitement consacré. La doctrine, les juristes qui, ou même les non-juristes qui étudient cet article 5, parlent toujours de liberté scientifique. En France, on n'a pas l'équivalent de ce concept, et on n'a pas, ça sera le premier point de l'introduction, on n'a pas véritablement de concept de liberté académique. Ce qui m'a surpris dans les recherches que j'avais faites justement sur l'histoire du concept, c'est qu'en France, on a un autre concept, qui est celui de liberté universitaire au pluriel, qui, pour résumer, correspond à ce qu'on appelle la liberté académique à l'étranger, plus un autre concept qui est le concept de franchise universitaire. Donc en France, pendant très longtemps, les seules personnes intellectuelles universitaires qui se sont intéressées à cette question étaient les juristes avec leur concept extensif de liberté et franchise universitaire. Juste pour vous signaler, on entend par franchise universitaire les vieilles franchises médiévales que sont d'une part la franchise de police, c'est-à-dire que l'État et la police ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte de locaux universitaires sans l'autorisation des responsables universitaires, sauf cas de flagrant délit. Et la deuxième franchise, c'est ce qu'on appelle la franchise juridictionnelle. Les universitaires ne peuvent être révoqués, ne peuvent être sanctionnés disciplinairement que par leur propre juridiction, juridiction universitaire, et ne peuvent pas être sanctionnés par l'autorité administrative, qui est une franchise très très importante et très protectrice des droits des universitaires. Donc c'est comme ça qu'on connaît un peu en France le concept de liberté universitaire, et on n'avait pas du tout la notion de liberté académique. Et il me semble que cette absence de réflexion sur le concept de liberté académique en dit long sur l'état de l'université en France. En effet, le mot même, l'expression de liberté académique vient non pas de l'anglais, academic freedom, mais vient surtout de l'allemand, puisque c'est les Allemands qui ont fondé le concept de Academische Freiheit, qui a été traduit ensuite par, aux États-Unis, par Academic Freedom, et aujourd'hui, la littérature est très abondante sur ce concept-là. En France, elle est quasiment inexistante. Et j'ai été frappé dans mes recherches de voir qu'aucun grand intellectuel français n'avait consacré un article à la liberté académique. Quand on dit grand intellectuel en France, on veut dire les philosophes. Le seul philosophe qui a réfléchi à cette question, parce qu'il avait lu les Allemands, c'est Paul Ricoeur. Et donc je voulais dans le livre sur le savoir académique, j'avais consacré un chapitre préliminaire sur le concept de liberté académique, de point un concept méconnu. Et finalement j'ai enlevé parce que le livre était trop gros, donc je l'ai publié dans la revue Commentaires. Et pourquoi c'est important? C'est tout simplement le reflet, cette absence de réflexion en France de la liberté académique est le reflet de l'absence de réflexion sur l'université en France, car l'université est la mal-aimée de la République, est une institution en France, comme vous savez, qui est totalement secondaire, pour ne pas dire reléguée au second plan. C'est un universitaire qui vous parle, et donc je sais de quoi je parle, puisqu'elle est concurrencée par les grandes écoles. Et donc l'université ne compte pour rien. Et c'est évidemment cette situation inférieure de l'université qui explique en partie d'ailleurs pourquoi les universitaires eux-mêmes ne sont pas intéressés à ce concept qui est pourtant fondamental. Ce qui fait qu'on a quelque chose de paradoxal en France, on a des universités, on a une sorte de liberté académique qui est effectivement reconnue grâce à ce concept de liberté universitaire, mais on n'a pas de réflexion sur la liberté académique. Et c'est très surprenant, et juste pour donner un exemple, vous allez en Belgique, vous tapez c'est pas peine d'aller en Belgique avec maintenant les internet sur un catalogue d'une bibliothèque belge, vous trouvez tout de suite deux ou trois livres ou articles sur la liberté académique. Ben, en France, il n'y en a pas. Enfin, jusqu'à récemment, il n'y avait pas. Donc il y a une spécificité française. Donc la première obligation que je me suis un peu posée ici, c'est d'expliquer ce concept qui est vraiment très mal connu. Pour vous donner juste un exemple, on pourrait dire que c'est secondaire, mais c'est très important, c'est que quand le concept de liberté académique est arrivé en France, dans les années 2020, on employait à tort cette expression, puisqu'on parlait au pluriel, on disait les libertés académiques. Or, du point de vue rigoureux, si on est rigoureux, on doit dire les libertés universitaires, parce que ça correspond effectivement aux libertés et franchises universitaires, mais le concept de même de la liberté académique, c'est au singulier. Donc la réception même du concept de liberté académique s'est faite sous de très mauvais auspices, puisqu'on n'a même pas été capable de comprendre que c'était un concept qui devait se décliner au singulier. Et pour finir cette introduction, c'est par hasard, si on peut dire, que le concept de liberté académique s'est imposé dans l'espace public en France, puisque c'est en 2020, à propos de l'éruption de la querelle sur l'islamo-gauchisme, qu'on a introduit la liberté académique, et on l'a introduit de la plus mauvaise des façons dans la loi sur la programmation de la recherche, la fameuse loi LPR de décembre 2020. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il me semble que la première chose qu'il faut faire quand on traite de la liberté académique, c'est d'expliquer ce que c'est. Et puis évidemment, comme tout concept, il évidemment fait l'objet d'interprétations différentes. Donc je voudrais dans une première partie faire une sorte de bilan du concept, enfin un exposé plutôt, du concept de liberté académique, et j'ai appelé ça le sens et la portée de la liberté académique. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de voir comment ce concept peut être traduit en droit. Et j'ai appelé ça la difficile traduction en droit de la liberté académique. Donc voyons d'abord le sens et la portée de la liberté académique, où là, je vais m'affronter à une question effectivement un peu, pas abyssale, mais une question un peu difficile, quel est le sens de la liberté académique. Et dans une deuxième moment, j'essaierai d'insister sur une différence capitale, une confusion à éviter, qui est très courante aujourd'hui en France, c'est la confusion qu'on fait entre la liberté d'expression et la liberté académique. On a tendance à identifier les deux, alors qu'à mon avis, il faut les distinguer si on veut comprendre de quoi on parle. Donc, premier développement, sur quel est le sens de la liberté académique. Alors, je vais partir de deux ou trois... Deux, ça suffira, j'en ai plus dans mon texte, mais je vais me contenter de deux définitions qui expriment assez bien le sens de la liberté académique. La première, c'est une définition que j'ai trouvée dans un arrêt de la Cour constitutionnelle belge en 2005, où la Cour définit ainsi la liberté académique. Je cite. « La liberté académique traduit le principe selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir dans l'intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, virgule, d'une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions. » Définition très claire, qui, à mon avis, est très pertinente. Je ferai peut-être quelques modifications tout à l'heure, mais c'est quand même l'essence de la liberté académique, à mon avis, est bien ciblée par cette définition. Qu'on peut compléter par une définition qu'on trouve dans la récente loi au Québec qui a été instituée sur la liberté académique, où il est dit que la liberté académique est celle qui échoit aux membres du corps enseignant qui s'expriment à l'intérieur des limites prévues par la loi, afin de mettre en question les idées reçues et d'en proposer de nouvelles. Fin de citation. Ce qui est ici intéressant, c'est une idée qu'a exprimée le philosophe américain Sidney Hooke, c'est que la liberté académique suppose un droit à l'hérésie, le droit de combattre des idées reçues. Et dans ces définitions, on voit apparaître quelque chose de fondamental, qui est que la liberté académique, c'est un concept qui sert aux universitaires à faire leur métier. Je dirais plus exactement, si je devais résumer l'idée à des néophytes, je dirais que la liberté académique, c'est le moyen essentiel pour les universitaires d'exercer leur métier, ce qui suppose aussi, c'est un moyen au service d'une fin, car évidemment, il faut partir d'une idée haute de l'université, qui est que l'université est le lieu où on recherche la vérité. Donc, si c'est la condition d'exercice du métier d'universitaire, c'est parce que les universitaires appartiennent à l'institution, l'université, qui, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, n'est pas là pour délivrer des diplômes, ça c'est la version basse de l'université, mais si on a une vision haute de l'université, l'université est un lieu où on recherche la vérité. Et donc, on comprend bien le lien qui existe de moyen à fin. La liberté académique, c'est le moyen qui permet à l'université d'exister. Car l'université, c'est le lieu où on recherche la vérité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a une première approche du concept. Évidemment, il y a des divergences, il y a des conceptions possibles qui s'opposent sur cette liberté académique, même si on a cette définition minimale que je vous ai proposée. Et il y a ici une opposition assez nette entre la conception qu'on pourrait appeler individualiste et la conception collective. Pour comprendre cette opposition, il faut quand même revenir sur le contenu de la liberté académique. Là, je vous ai donné une définition très large. Ce contenu de la liberté académique, il est double. C'est d'un côté, pour reprendre la distinction d'Isaiah Berlin, il y a une face négative de la liberté académique et une face positive. La face négative, c'est qu'il faut comprendre la liberté académique comme une protection. C'est une protection accordée aux universitaires. Je n'utilise jamais le mot enseignant-chercheur, aux universitaires, contre des immixtions de pouvoirs qui sont extérieurs à l'université. Et ces pouvoirs, il y en a plusieurs. Il y a le pouvoir le plus ancien, c'est le pouvoir religieux. Ensuite, après, il y a eu le pouvoir politique. Ensuite, il y a le pouvoir économique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai montré dans le livre sur le savoir en danger, il y a le pouvoir social, c'est-à-dire la société civile qui, par l'intermédiaire des étudiants, veulent limiter le pouvoir à la libre expression des enseignants. Ça, c'est l'aspect négatif. Et puis, l'aspect positif, la liberté positive, son contenu. Son contenu, il est implicitement défini ou décrit dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure. puisqu'on peut considérer, même s'il y a des divergences sur les auteurs, qu'il y a trois libertés. On dit souvent, je reprends cette formule à Georges Vedel, qui parlait des libertés universitaires, ce sont des libertés faites de liberté au pluriel. Ces libertés, il y en a trois qui sont déterminantes, qui décrivent, à mon avis, très bien le contenu de la liberté académique. La première, c'est la liberté de recherche, qui est la marque moderne de la liberté académique, c'est-à-dire c'est l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui permet aux universitaires, aux chercheurs, de remettre en cause des idées établies. Ce qui suppose de pouvoir chercher librement et donc de ne pas avoir de contraintes sur l'objet de sa recherche. Deuxième liberté qui est très importante, et là je parle surtout des universitaires, c'est pour ça que je laisse de côté les chercheurs, l'universitaire il a une liberté d'enseignement. Cette liberté d'enseignement, c'est la liberté d'enseigner en cours des choses qu'il considère comme justes et selon des critères qu'il juge pertinents. C'est lui qui établit son programme de cours. Il n'a pas d'instruction, il n'a pas de contenu préalable de son cours à donner. Son cours est normalement le lieu où il peut à la fois donc concilier l'enseignement et la recherche. Et une troisième liberté, sur laquelle je reviendrai, que j'ai déjà évoquée, qui est la liberté d'expression. Le propre de l'universitaire, c'est que dans le cadre de ces deux activités, l'enseignement et la recherche, il a une très large liberté d'expression parce que c'est la condition pour qu'il puisse exposer des idées nouvelles. Donc il s'agit ici de trois libertés essentielles qui, alors je le signale, ça je le démontrais dans le livre sur les libertés universitaires qu'a évoqué tout à l'heure Samantha Besson de 2010, qui en France pose un problème particulier dû au fait que les universitaires sont des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires ont un statut très rigide, protecteur, mais en même temps très peu libéral, puisque notamment les fonctionnaires sont censés avoir un devoir de réserve. Or, il est évident que les universitaires ont très peu de devoirs de réserve, puisque pour qu'ils puissent exercer leur métier, ils ne sont pas soumis à ce devoir de réserve, et notamment, ils ont la possibilité de critiquer leur gouvernement. Et dans le livre sur les libertés universitaires, là, c'est pour faire plaisir à Samantha Besson, je cite une très belle formule de Georges Selle, le grand internationaliste français, qui était pacifiste, fait une conférence à Bâle pendant la guerre, ou après la guerre, je ne sais plus, après la guerre, où il critique Poincaré et la politique du gouvernement français, en juriste. Et le président du conseil alerte le recteur de Dijon en disant « Mais qu'est-ce que fait votre professeur d'université ?» etc. Appelant le recteur à sanctionner l'universitaire. Et Georges Selle répond superbe au ministre, au président du conseil, en disant « Je suis professeur d'université, je n'ai pas à exposer des vérités d'ordre gouvernemental. » Et ça exprime très bien l'indépendance du professeur qui expose son point de vue scientifique sur une question, et il n'a pas à obéir au président du Conseil, alors même qu'il est fonctionnaire. Donc ça, c'est le double contenu de la liberté académique, qui est un contenu très riche, et évidemment, je n'ai pas développé, mais par exemple, quand je parle de la liberté de recherche, il y a des libertés qui se déclinent, des sous-libertés, si on peut dire, par exemple, la liberté de publication, c'est un corollaire évident de la liberté de recherche, donc tout ce qui porte atteinte à la liberté de publication porte atteinte à la liberté de recherche et porte atteinte, évidemment, à la liberté académique. Dans le livre sur le savoir en danger, je cite un cas de censure lamentable du ministère du Quai d'Orsay de cette revue qui s'appelle l'Afrique en développement. Je ne sais plus le titre de la revue. Donc il est évident que cette liberté se décline, de même que la liberté d'enseignement, elle suppose et implique la liberté pédagogique, qui n'existe pas en France, je vous rassure tout de suite. Alors maintenant, pour en revenir à la distinction que je proposais entre les deux conceptions possibles, conception large et conception étroite de la liberté académique, eh bien cette distinction est un peu inévitable parce que la question qu'on doit se poser quand on étudie la liberté académique ou la liberté universitaire, c'est de savoir à qui elle s'applique. Est-ce qu'elle s'applique aux individus, c'est-à-dire aux universitaires, aux professeurs, ou est-ce qu'elle s'applique au corps professoral, c'est-à-dire à l'institution collective. Et c'est un débat qui a toujours eu lieu entre ces deux possibles interprétations de la liberté académique et qui coexistent aujourd'hui encore dans la littérature. Il y a toujours ces deux conceptions qui apparaissent implicitement ou explicitement. Dans la conception collective, corporative, il s'agit en fait d'une liberté du corps professoral, de l'institution Et là, les droits qui sont afférents à cette liberté sont des droits qui sont typiques de l'institution universitaire. C'est le fameux principe du self-government des universités. Le propre des universités, des vraies universités, c'est qu'elles sont indépendantes, elles sont autonomes, elles s'auto-gouvernent. Et notamment, comme vous le savez, ce sont les universitaires qui sont censés, dans tous les pays du monde qui ont des vraies universités, eh bien, organiser, diriger l'université. Ils sont élus et ils dirigent l'université. Et puis, vous avez donc le principe de self-government, évidemment, fondamental. Et puis, il y a d'autres principes fondamentaux de ce que je pourrais appeler, de ce qu'on pourrait appeler la constitution universitaire, qui sont, par exemple, d'une part, le fameux principe de collégialité, c'est-à-dire que les décisions, notamment de recrutement, sont prises par les collègues, collégialement, et non pas individuellement. Il n'y a pas de nomination, il y a des élections par les pairs, et ce principe de collégialité est en quelque sorte l'âme d'une vraie université. Et là, on voit bien que ce qui est en compte, ce qui prend en compte, ce sont les droits corporatifs de l'institution. Ce n'est pas le droit de tel ou tel enseignant, c'est le droit de la corporation universitaire. Et puis, il y a une autre conception possible, qui est celle que j'ai adoptée dans le livre sur le savoir en danger, c'est la conception individuelle de la liberté académique qui est accordée non pas au corps, mais au professeur, ou tsinguli, c'est-à-dire au professeur en tant qu'il est un individu qui est professeur. Et là, ces droits, il y a des droits qui sont équivalents à des droits individuels, qui est le droit à la liberté académique, et ces droits, ce sont les trois droits que j'ai évoqués tout à l'heure, le droit à la liberté de recherche, le droit à la liberté d'enseignement et le droit à la liberté d'expression. Pourquoi, pour ma part, donc pour moi, les deux conceptions sont possibles et quelquefois elles coexistent. Pourquoi j'ai adopté dans le livre sur le savoir en danger cette conception individuelle de la liberté académique ? Parce que l'optique que je voulais défendre, ou que j'ai voulu plutôt adopter, c'était d'essayer d'expliquer comment un universitaire pouvait se défendre contre son institution. C'est-à-dire que comme vous le savez, il y a un autogouvernement des universités, il y a maintenant des responsables universitaires, il y a des présidents d'universités, il y a des doyens. Ou même, il y a également ce qu'on appelle de plus en plus, en France, il y a de plus en plus de recherches collectives, ces fameuses écoles doctorales ou ces fameux centres de recherche. C'est devenu extrêmement corporatif, collectif, tout ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'en tant qu'un individu, on n'est pas d'accord avec des décisions de son doyen, de son président ou même de son centre de recherche? Y a-t-il un moyen pour l'universitaire qui est contre des décisions prises par ses élus, ce sont ses élus, avec lesquels il n'est pas d'accord? Et si on adopte une conception collective, on n'arrive pas à défendre. Le collègue n'arrive pas à se défendre. Et pour ma part, je considère qu'il faut absolument permettre aux universitaires de pouvoir se défendre contre des décisions arbitraires de son président d'université en invoquant justement la liberté académique. Et dans le livre, le chapitre, à mon avis, le plus illustratif de la situation française et le chapitre qui a le moins retenu l'attention des journalistes, parce que c'est pas très vendeur, c'est ce que j'appelle le harcèlement administratif. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, contrairement à ce que disent tous les gens sur le néolibéralisme et l'influence du marché financier ou du capitalisme sur l'université française, tout ça à mon avis est totalement secondaire. Pour un universitaire français, la principale menace de la liberté académique, c'est simplement son administration. C'est l'administration. Et notamment son administration universitaire. Et donc j'essaie de démontrer ça à travers des exemples ahurissants qu'on m'a donné, donc qu'on m'a rapporté, sur le fait que la plupart des universitaires français maintenant se voient imposer des tâches administratives qui ne figurent pas dans le décret statutaire de 84, qui sont illégales, tout simplement. Et donc c'était un peu pour ça que j'ai voulu défendre cette liberté académique. Mais comprenez-moi bien, c'est pas parce que j'ai adopté ce point de vue de la liberté académique individuelle que l'autre liberté académique collective n'existe pas. Très souvent, elles coexistent. Et j'essaierai de montrer tout à l'heure comment on peut les concilier à partir de l'idée de liberté professionnelle. Un dernier point, et c'est là que je voudrais arriver, sur ce qu'appelle la synthèse. Il me semble que la meilleure manière de définir la liberté académique est celle qu'a adoptée, pour moi, celui qui a écrit les choses les plus intéressantes sur la liberté académique, c'est un Américain, c'est Robert Post, qui est l'ancien doyen de la Yale Law School, et qui a écrit avec son collègue américain Matthew Finkin un livre très important qui s'appelle « For the Common Good » et sur la liberté académique, où dans ce livre, ils définissent, et postent dans un autre article, la liberté académique comme une liberté professionnelle. C'est-à-dire une liberté qu'on a en tant qu'individu parce qu'on appartient à une profession qui est la profession universitaire. Et je vous donnerai une définition notamment qui est, à mon avis, très explicite et très, très claire sur la liberté académique au sens professionnel du terme. La liberté académique consiste dans son essence dans la liberté de poursuivre la profession de savant, là j'ai traduit scholarly profession, c'est difficile à traduire, selon les standards de cette profession. Autrement dit, ce qui est très important ici, c'est évidemment que la liberté académique, elle suppose une expertise. C'est parce qu'on est universitaire qu'on peut en jouir. Et ce qui est aussi important que le mot liberté dans liberté académique, c'est le terme académique. Il en découle, et ça c'est une conséquence fondamentale, que si on définit la liberté universitaire comme une liberté professionnelle, qui est accordée aux professeurs, aux universitaires, parce qu'ils sont universitaires, il en découle que ce n'est pas un droit de l'homme, c'est un droit qui est un droit dont on peut jouir uniquement, évidemment, si on a obtenu les titres d'universitaire. Donc c'est bien une liberté professionnelle. Donc c'est pas un droit de l'homme. Et évidemment, ça suppose l'idée que c'est un droit, comme dit un autre auteur, c'est un droit qui mérite d'être gagné. On dit en anglais « to be earned », c'est-à-dire que c'est un droit qu'on a mérité en tant qu'universitaire. Et on l'a mérité parce qu'évidemment, on a accompli le travail scientifique qui est évalué par ses pairs étant les seuls capables de dire que ces travaux sont dignes d'un universitaire et que vous êtes digne ensuite d'être universitaire. Et c'est seulement une fois que vous avez franchi cette étape que vous pouvez à ce moment-là revendiquer à votre profit la notion de liberté académique. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que aujourd'hui la tendance, là je viens d'écrire un article dans la revue Communication, qui va paraître sur les sciences sociales, où j'essaie de montrer justement que le propre de la liberté académique, c'est, on ne peut la comprendre que si on comprend son avet ou son revers, c'est-à-dire les deux faces de la même médaille, c'est l'éthique académique. La liberté académique a une limite, évidemment, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, ou de refaire n'importe quoi, ou de chercher n'importe quoi, donc pas du tout. C'est la liberté académique de chercher, de s'exprimer, d'enseigner, à condition de respecter tout simplement l'éthique académique, c'est-à-dire les canons de la discipline que l'on enseigne ou dans laquelle on recherche. Et c'est ce doublet éthique académique et liberté académique qui constitue la particularité de cette liberté. Ce qui suppose évidemment, et c'est ce que je répétais souvent dans le livre sur le savoir en danger, c'est que la liberté académique n'est pas l'anarchie académique. Aujourd'hui, vous savez, des gens, je vois ça très souvent, qui, à propos de n'importe quoi, s'ils ne font pas bien leur travail, ou ils disent n'importe quoi dans un cours, ils vont invoquer la liberté académique. Ce n'est pas du tout ça, la liberté académique. Ce n'est pas du tout ça. La liberté académique présuppose l'éthique académique, où les deux sont liés. On ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Autrement dit, ce qui est un peu particulier, puisque nous, toujours terme, on pense toujours à liberté dans le sens de liberté de faire ce qu'on veut, non. La liberté, évidemment, elle est intrinsèquement limitée par cette éthique académique. Et celui qui l'a très bien montré, je vous renvoie, celui qui m'a beaucoup éclairé d'ailleurs dans mes recherches, c'est le philosophe français Pascal Engel, qui a écrit deux ou trois articles très remarquables sur la liberté académique. Alors, je vais maintenant aborder le second temps de cette première partie en évoquant une question très centrale qui est la distinction entre liberté académique et liberté d'expression. Évidemment, la question est très central parce que si on parle aujourd'hui en France de la liberté académique, c'est parce qu'il y a des problèmes de liberté d'expression qui se posent très souvent d'ailleurs qui se posent très souvent dans la pratique lorsque des personnalités politiques contestées ou intellectuelles contestées sont invitées par des associations d'étudiants et que à la suite de ces invitations, d'autres associations d'étudiants veulent boycotter les interventions. Donc c'est arrivé à M. François Hollande, c'est arrivé à Mme Gazinski, donc c'est ces cas très connus, de gens très connus, qui sont exposés et on dit voilà, la liberté académique est ici en cause, la liberté d'expression doit être respectée et donc on assimile constamment la liberté d'expression à la liberté académique. Il me semble que c'est très réducteur parce que la liberté académique, enfin, la liberté d'expression n'est qu'une composante de la liberté académique. Alors vous pouvez dire, mais c'est contradictoire. Je vous ai dit tout à l'heure que la liberté d'expression, c'était une liberté qui faisait partie de la liberté académique. C'est là qu'il faut faire une distinction, à mon avis, très importante, entre la liberté d'expression, ce que j'appelle intra-académique, et la liberté d'expression extra-académique. Je veux dire par là, on a ça en anglais, c'est dans Academic Freedom, inside the classroom and outside the classroom. Ça veut dire qu'il y a deux cas qui se posent. Vous avez le cas qui, moi, me paraît le cas topique de la liberté d'expression des universitaires, c'est lorsque dans un cours, vous faites un cours, et puis, bon, je suis juriste, vous faites un cours en droit, vous exposez le droit positif, et à un moment donné, tout bon professeur, à un moment donné, peut ne pas être d'accord avec soit une décision de jurisprudence, ou est en désaccord avec la loi ou avec la Constitution, et à ce moment-là, il expose son point de vue. Donc, il exprime un point de vue personnel sur le droit en vigueur, après avoir exposé, évidemment, il faut qu'il expose le droit positif. Ben, ça, c'est de la liberté d'expression, et il est dans le cadre de son métier. Mais, très différent est le cas, qui est souvent, il y a souvent des cas aux États-Unis, par exemple, du professeur de mathématiques, ou de physique, pour prendre des exemples topiques, qui va maintenant intervenir sur l'affaire, par exemple, sur la guerre entre Israël et Hamas, ou des choses explosives. Ou, par exemple, le grand Chomsky, qui, comme vous le savez, est un grand linguiste et, par ailleurs, un pourfendeur de l'impérialisme américain. Donc, Chomsky a multiplié. Et dans le livre sur Savoir en danger, j'évoque un très grand auteur, pour le coup, qui a beaucoup travaillé sur la liberté académique, qui est Bertrand Russell. Bertrand Russell est un cas topique, puisque Bertrand Russell a été licencié de son université de Cambridge parce qu'il avait, en 1917 ou 18, exprimé des opinions pacifistes, ce qui évidemment n'était pas très tendance, et il a été licencié. Et Bertrand Russell, dans ses écrits, a toujours dit qu'il avait tout à fait le droit d'avoir des opinions pacifistes, mais il considérait que quand il s'exprimait en tant que citoyen sur ces questions de politique, il ne s'exprimait pas en tant qu'universitaire, il s'exprimait en tant que citoyen. Donc il faut bien, donc outside the classroom, c'est-à-dire c'est un universitaire qui prend position dans le débat public, mais qui n'invoque pas son expertise de son domaine, mais qui intervient en tant qu'homme public, en tant que citoyen, pour éclairer l'opinion publique de ses lumières, à lui, de citoyen, et non pas d'universitaire. Et donc, dans ce cas très précis, ce que j'appelle la liberté d'expression extra-académique, on n'est plus dans le cadre de la liberté académique. On n'est plus du tout dans le cadre de la liberté académique. Et d'ailleurs, je considère qu'en ce moment-là, l'individu change de statut, autant lorsqu'il s'exprime en cours sur un domaine qu'il connaît, dans son cadre de son cours et de ses compétences, il s'exprime en tant qu'universitaire, et il a droit à une très large liberté d'expression, autant quand il s'exprime en dehors de son domaine de compétence, il n'agit à ce moment que comme citoyen, et il n'a pas le droit d'invoquer la liberté académique. Il a le droit d'invoquer la liberté d'expression, garantie en France par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Oui, il a le droit, mais il n'a pas le droit en tant qu'académique, et je donnerai tout à l'heure, dans la deuxième partie sur le droit, un exemple. Et je vous renvoie un excellent article que j'ai utilisé dans Le Savoir en danger, d'un philosophe anglais qui s'appelle Simpson, qui s'appelle « The Relations Between Academic Freedom and Free Speech », où il distingue très bien les deux, dans le numéro d'Ethics en avril 2020, et je m'appuie beaucoup sur cet article dans Le Savoir en danger, pour justifier justement cette nécessité de distinguer les deux, chose qu'on a, à mon avis, tendance à confondre. Donc, ce que j'ai voulu dire ici, dans cette première partie où j'ai essayé de vous expliquer ce qu'était le concept de liberté académique, c'est qu'on s'aperçoit que c'est évidemment un concept qui est discuté, qui est discutable, mais qui a pour particularité de valoir principalement pour les universitaires, et dans le cadre universitaire. Maintenant, je voudrais essayer de quand même remplir le cahier des charges qui m'avait été très librement accordé, parler un peu du droit, quoi. Vous pouvez dire que c'est un juriste qui ne parle pas de droit. D'ailleurs, dans Le Savoir en danger, j'ai très bien expliqué, j'ai dit que ce n'est pas un livre de juriste, c'est un livre d'un universitaire sur cette question, et j'avais renvoyé au livre précédent, qui était effectivement un livre de juriste, le livre de 2010. Alors, maintenant, la difficile traduction de la liberté académique en droit. D'une manière générale, je dirais qu'en France, très souvent, pas très souvent, historiquement, en France, les libertés universitaires étaient garanties non pas du tout par le droit écrit, mais par la coutume. C'était les mœurs, les traditions universitaires, expression très souvent utilisée. C'était au nom des traditions universitaires qu'on respectait les libertés universitaires. Ce qui est effectivement très bien, c'est pour voir que l'institution était très solide, qu'elle existait et qu'elle n'était pas menacée. Malheureusement, comme vous le savez en droit, une coutume, elle perd toujours contre une loi ou contre un règlement. Donc l'administration, notre terrible bureaucratie ministérielle française, a tout fait pour détruire les libertés universitaires, ce qui fait qu'évidemment les universitaires français se sont retrouvés très démunis lorsqu'à partir des années 60, surtout 68, le pouvoir politique s'est mis en tête de vouloir réglementer la vie des universitaires. Ce qui fait que les coutumes ont évidemment volé en éclats et on est arrivé à du droit écrit. Et ce droit écrit, eh bien, on a quelques textes qui défendent la liberté académique, mais ils sont très peu utilisés, très peu connus, et en général très mal utilisés par le Conseil d'État, qui, je le dirai tout à l'heure, ne défend très mal la liberté académique. La différence ici est frappante avec, effectivement, l'Allemagne. En Allemagne, vous avez un article, l'article 5, qui prévoit, de la Constitution, qui prévoit quelque chose sur la liberté académique. En France, on n'a rien sur la liberté académique dans la Constitution, évidemment, rien. Et on va voir qu'au niveau législatif, on n'a pas grand-chose. Et on verra aussi que le statut des professeurs est très mal défendu par le droit existant. Et puis, on a une deuxième difficulté, donc une reconnaissance très incomplète de la liberté académique par la législation, et inexistante pour la Constitution. Et puis, on a des juridictions qui, alors je prends une expression très sportive, qui jouent contre nous. Parce que moi, je suis universitaire, je suis dans un camp, et moi, je vois le Conseil d'État dans l'autre camp, celui qui nous opprime, si on peut dire. Même si, évidemment, le Conseil d'État n'apprécierait pas cette formulation. En tout cas, pour être plus précis, qui garantit mal nos droits. D'abord, donc, la reconnaissance indirecte et incomplète de la liberté académique par le droit français. Indirect, parce qu'évidemment, vous ne trouverez, sauf dans la loi de 2020, sur laquelle je reviendrai, aucune disposition dans la législation française qui utilise l'expression de liberté académique. Aucune qui utilise même la vieille expression française de liberté universitaire. Ça, ce sont des concepts. Liberté universitaire, c'est un concept forgé par la doctrine des juristes, c'est pour ça qu'elle est connue de personne, sauf des juristes, évidemment, fraction secondaire des intellectuels français, c'est pas très reconnu. Reconnaissance indirecte, mais quand même reconnaissance. Et cette conférence m'a permis de relire des textes que j'avais cités, évidemment, mais que je n'avais pas vraiment étudiés dans tout ce que j'avais écrit. Le premier texte sur lequel j'attire votre attention, c'est l'article 33 de la loi Edgar Faure, de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 18 novembre 1968, qui est devenu, alors il faut toujours suivre, c'est un article qui est toujours de droit positif, qui a été transformé en article 57 de la loi Savary, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui est devenu, parce que maintenant on codifie tout, c'est l'article L952-2 de cet horrible monument qu'on appelle le Code de l'éducation nationale, qu'on est obligé de consulter aujourd'hui. Et j'en arrive au texte, qui est très intéressant, parce que c'est effectivement une reconnaissance indirecte. Je cite cet article de la loi Faure de 68, article 33. « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche. » Redit, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, virgule, sous les réserves, que leur imposent conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, je vais citer le nom de code, les principes de tolérance et d'objectivité. Donc là, vous avez exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure, le duo liberté académique et éthique académique, avec la face négative de la liberté académique, l'indépendance des professeurs, des universitaires, la face positive, qui est un élément de la face positive, c'est la liberté d'expression, et puis l'envers de la liberté académique, qui est l'éthique académique. Vous avez droit à ces droits uniquement sous réserve que vous fassiez preuve de tolérance et d'objectivité. Ça, c'est évidemment dirigé contre tous les universitaires militants. Un universitaire militant qui fait un cours militant, il viole tout simplement cette disposition de la loi. Et donc, cette loi, Faure, très bien écrite, parce que c'est très rare aujourd'hui d'avoir des dispositions aussi bien écrites, elle exprime très bien, justement, non pas la quintessence de la liberté académique, parce qu'il manque des choses. Il manque la liberté de recherche, il manque la liberté d'enseignement, parce qu'on parle de liberté d'expression, mais on a quand même l'idée globale de la liberté académique. Mais on n'a pas le concept. Et donc, c'est une disposition très importante qui est quelquefois citée, mais à mon avis, trop peu souvent citée. Et puis, vous avez une deuxième disposition qui, à mon avis, est redondante par rapport à celle de la, en partie redondante, qui a été rajoutée par la loi Savary, la loi de gauche, qui avait été contestée devant le Conseil constitutionnel, j'y reviendrai tout à l'heure, la loi Savary du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, donc la loi socialiste, qui, donc c'est à l'article 3 de cette loi, qui est devenu maintenant l'article 141.6 du Code de l'éducation nationale, mais c'est le même texte, qui dispose, je cite, « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant, et c'est ça qui est important à mon avis, de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. » Point virgule. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. Point. Dernière phrase. Il doit garantir, donc il, c'est le service public, doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et artistique. Fin de citation. Donc vous voyez ici, on retrouve en partie le contenu de l'article 33, qui donc c'était très mal légiféré parce que les deux se recoupent. Donc on a gardé l'ancien article, on a rajouté celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté celui-ci? C'est la logorée savarienne de cette loi qui est illisible sur le service public. C'était le grand mot, c'est service public, et on a rajouté la laïcité. Je suis allé voir les débats parlementaires. La seule chose qui a évidemment suscité l'intérêt, c'est que ça renvoie à l'idée que l'université n'intéresse personne, est très peu connue en France. Personne n'a discuté de la liberté académique au Parlement. Et notamment lorsque c'est devant l'Assemblée nationale, lorsque l'article 1, qui était l'ancien article de 3, est évoqué. Le seul qui intervient pour critiquer très vigoureusement cette disposition, c'est Alain Madelin, l'opposant de droite, et il conteste évidemment l'expression de laïcité. Mais tout ce que je vous ai dit, toute la partie qui est essentielle sur la méthode académique n'est absolument pas discutée au Parlement. Absolument pas discutée. Et ce qui est intéressant ici, il y a deux ou trois choses que je voudrais dire sur cet article. Premièrement, c'est la codification. Je suis un adversaire résolu de la codification, qui est une machine à abêtir. Il faut savoir, et j'ai découvert ça en relisant ce texte, que cet article est inséré dans le code, dans la partie sur la laïcité. Donc, ce qui est un non-sens absolu, parce qu'il y a effectivement le mot laïcité, mais le principe même de cet article, c'est la liberté académique. Eh bien, ils ont réussi à classer ça dans le code d'éducation, dans la partie sur la laïcité, dans les principes généraux de l'enseignement. C'est-à-dire que vous avez l'école primaire qui est laïque, et puis on a l'enseignement supérieur, boum, on balance cet article de la loi Savary dans la laïcité. Donc, on voit très bien à quel point la liberté académique est malmenée par nos bureaucrates qui ne comprennent rien à ces questions. La deuxième chose évidemment importante et plus importante, c'est le terme emprise. C'est-à-dire l'idée ici que je vous ai évoqué, que la liberté académique c'est une indépendance, on le voit très bien apparaître par l'idée que le service public doit, la formule exactement, c'est est laïque et indépendant de toute emprise. Donc c'est évidemment cette idée que l'État est censé, l'État, parce que le service public c'est l'État, ou les universités, c'est les universités sont censées protéger les universitaires de toute emprise et donc ont tous les pouvoirs qui peuvent menacer cette liberté académique. Et puis, dernière expression qui est assez intéressante, c'est l'aspect actif, c'est-à-dire une sorte de droit-créance où il est dit que le service public doit garantir les possibilités d'avoir accès à cette liberté académique. Et ce qui est évidemment très important, parce que si on faisait une interprétation un peu extensive mais possible, c'est de dire que les universitaires ont droit de réclamer que l'université donne les moyens aux universitaires d'effectuer leurs recherches librement, ce qui est loin d'être le cas. Ce qui est peut-être aussi intéressant que ces dispositions, c'est la façon dont le Conseil constitutionnel a interprété ces dispositions dans sa fameuse décision de janvier 84, qu'on appelle la décision Liberté universitaire, qui a pour particularité d'avoir été rédigée par Georges Vedel. Or, Georges Vedel avait écrit, qui était professeur de droit, avait écrit le meilleur article sur la liberté universitaire en 1960 dans la revue de l'enseignement supérieur. Et donc Vedel a réutilisé, comme un bon juriste, ses écrits de 1960 pour réinterpréter ces textes. Et dans cette donc il commente l'article 3 que je vous ai cité, et il le commente de manière extrêmement subtile. On n'a pas l'équivalent de décision de ce type aujourd'hui dans le Conseil constitutionnel. Voici ce qu'il écrit. C'est le Conseil constitutionnel qui parle, et c'est Vedel en fait. Considérant, donc après avoir cité l'article 3, que par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permette, mais demande, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par leurs dispositions qui leur sont applicables. Je répète que par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables. Ce qui est ici très intéressant, c'est que Vedel renverse l'expression « intérêt du service ». L'intérêt du service en droit de la fonction publique, c'est le coup de massue sur les fonctionnaires. Dès qu'il y a un truc qui ne plaît pas à l'administration, qui veulent vous empêcher de faire quelque chose, ils invoquent l'intérêt du service, par exemple pour vous faire des heures supplémentaires, alors que normalement un universitaire ne devrait faire que son service s'il veut faire de la recherche, eh bien l'administration balance à chaque fois l'intérêt du service. L'intérêt du service, c'est la raison d'État, si on peut dire, du droit de la fonction publique. Eh bien Vedel inverse cette logique autoritaire en logique libérale, c'est que dans l'intérêt du service, il faut que les universitaires soient libres et jouissent de cette indépendance et de cette libre expression. C'est pour ça, c'est une décision capitale qui montre bien ce qu'on peut tirer des textes. Malheureusement, depuis cette décision 84, le Conseil constitutionnel n'a absolument pas poursuivi dans cette voie. Pour finir sur la loi, il faut quand même que je dise un mot quand même du seul moment où en France, une seule loi qui évoque la liberté académique, c'est cette fameuse loi du 24 décembre 2020, loi sur la programmation de la recherche, qui est une disposition, je vais la lire, et puis je vous rassure tout de suite, cette disposition ne veut rien dire. Mais elle est dans la loi. Je vous cite, pour dire, c'est un chef-d'œuvre de mauvaise législation, les libertés académiques, on est au pluriel, donc apparemment le législateur ne sait pas que c'est un singulier, sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. On est bien avancé. Elle s'exerce conformément aux principes à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Ce qui veut absolument rien dire. Donc je refuse de faire l'exégèse de ce texte. Ce texte n'existe parce qu'il a fallu se sortir de l'ornière dans laquelle une sénatrice avait mis le gouvernement c'était à l'époque après l'assassinat de Samuel Paty, la querelle sur l'islamo-gauchiste. Une sénatrice avait proposé un amendement qui avait été accepté, qui était extrêmement dangereux, qui était le suivant. Les libertés académiques, toujours au pluriel, s'exercent dans le cadre des valeurs de la République. Voilà. Donc, comme par hasard, le seul moment où on a légiféré sur la liberté académique, c'était pour limiter les libertés académiques. Voilà. La liberté académique. Et donc, heureusement, cet amendement a été supprimé, mais il a donc bien fallu conserver quelque chose, et c'est cet article lamentable qu'on trouve maintenant dans le Code de l'éducation. Donc, vous voyez, cette liberté académique, elle est quand même très mal protégée par la législation. On pourrait, alors je pourrais développer, mais je vois que l'heure, j'ai bientôt fini, enfin le temps est compté désormais, donc je vais couper certains développements. Je vais juste quand même résumer ce que j'avais écrit. Une des particularités du statut des universitaires, qui j'appelle un statut dégradé, on a écrit avec François Vatin dans le commentaire un article là-dessus, sur un statut dégradé, c'est que si on réfléchit bien à la situation universitaire, leur principal privilège, c'est l'indépendance. C'est ça qui caractérise leur profession. Et de ce point de vue-là, il y a une ressemblance frappante avec les magistrats. Seulement, donc logiquement, si les choses étaient bien faites, on devrait avoir un statut, nous les universitaires, équivalent à celui de magistrat. Comme vous le savez, peut-être, vous ne le savez pas, les magistrats ont en France un statut très protecteur qui est prévu dans une loi organique. Eh bien, les universitaires ont un statut qui n'est même pas prévu par la loi organique, mais surtout qui n'est même pas prévu par la loi. Nous, universitaires, nous dépendons d'un décret statutaire de 1984, c'est-à-dire nous dépendons de l'arbitraire du pouvoir réglementaire. Et donc, si on avait pris au sérieux, si on prenait au sérieux la liberté académique, il est évident que la première chose qu'on modifierait, c'est le statut juridique des professeurs, des universitaires. On devrait avoir un statut au moins législatif. Et le Conseil d'État, encore une fois, s'est opposé à cette solution dans une décision de 1998 que je voulais vous citer, mais qui est très bien. Donc j'en arrive à ce que je voulais dire en dernière partie de ce développement sur le droit, qui est les juridictions françaises garantissent mal la liberté académique. J'ai un peu annoncé mon sujet en parlant de cette décision du Conseil d'État de 1998 sur le statut non législatif des universitaires défendu, à mon avis, à tort par le Conseil d'État. Eh bien, le Conseil d'État a fait mieux. Et là, je voudrais évoquer une affaire que j'ai commentée dans le recueil d'Allouz. Donc, ceux qui ont déjà lu le recueil d'Allouz la connaissent peut-être. C'est ce que j'appelle l'affaire de Nantes, qui est un cas très intéressant où le Conseil d'État comprend rien à ce qu'est la liberté d'expression universitaire. C'est une affaire classique en France, blocage d'étudiants en grève contre la loi orientation et réussite d'étudiants. Cas classique, des universitaires s'estiment solidaires des étudiants en lutte et accompagnent les étudiants dans une manifestation le jour des examens. Et ça dégénère évidemment, et des étudiants menacent des vigiles, et donc les universitaires qui sont présents dans ce cortège ont une attitude qui a été considérée comme hostile et dangereuse par les personnels administratifs, et le président de l'université, pour une fois, poursuit disciplinairement les universitaires grévistes, ils étaient deux, dont un sociologue, et ces universitaires sont sanctionnés par le conseil de discipline de Nantes, et surtout sanctionnés en appel par la juridiction universitaire qu'on appelle le CNESER disciplinaire. Le sociologue condamné se pourvoit en cassation, et le Conseil d'État, de façon très surprenante, casse la décision du CNESER disciplinaire en estimant que l'universitaire en question, le gréviste, avait usé légitimement de sa liberté d'expression. Mais vous voyez bien le problème. Quand j'ai cité l'article 33 de la loi Faure, j'ai bien précisé qu'il s'agissait de la liberté d'expression dans l'exercice de ses fonctions, d'enseignement ou de ses activités de recherche. Où est ici l'exercice des fonctions d'un professeur qui se mêle aux étudiants en lutte? Il a le droit. Il a tout à fait le droit. Il n'est pas révoqué pour ça. On n'est pas en Turquie, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine. On est en France. Mais il agit évidemment en tant que citoyen qui défend une cause, qui est la cause, que vous savez, de l'égal accès des étudiants, du droit des étudiants à avoir tous le doctorat en France, comme disait Georges Wedel. Bon, c'est son droit, on ne peut pas lui reprocher, mais ce n'est pas de la liberté académique, ce n'est pas de la liberté d'expression au sens de l'article 33. Donc vous avez la plus haute juridiction française qui, dans un cas de ce type, méconnaît tout simplement ce que signifie l'article 33 de la loi Faure et interprète, à mon avis, à tort, extensivement, une disposition législative qui n'était pas destinée du tout à protéger, ici, l'universitaire. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en France, on connaissait mal la liberté académique, bah, malheureusement, on en a la preuve la plus tangible, parce que le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, n'est pas en mesure de comprendre elle-même cette liberté d'expression, et évidemment, elle donne un signal évidemment très négatif aux universitaires militants qui croient que leur travail professionnel consiste à soutenir les étudiants en lutte. Alors, je vous rappelle pour... J'avais développé l'effet plus longuement dans la chronique d'Allouz, où j'envoie la lecture de cette chronique dans le recueil d'Allouz. L'étudiant, évidemment, le maître de conférence en sociologie, a évidemment invoqué le fait qu'il était dans le cortège étudiant parce qu'il était en observation participante. Il était là en tant que sociologue à observer la grève. Alors évidemment, les universitaires qui sont membres du CNESER disciplinaire, qui connaissent un peu le métier quand même, ont évidemment rejeté cette défense qui était très faible. Mais le Conseil d'État semble avoir apprécié cette défense puisqu'il a osé casser cette décision du Conseil d'État, du CNESER disciplinaire, en, à mon avis, invoquant à tort la liberté d'expression. Donc, on est mal parti, puisque le Conseil d'État méconnaît très largement cette liberté académique, et la même chose peut être dite en partie par le Conseil constitutionnel. Et là, je réfère à un petit livre qui vient de sortir de Camille. Je n'ai pas évoqué beaucoup de littérature sur la liberté académique. Il y a une jeune maître de conférence universitaire qui s'appelle Camille Fernandez, qui a fait sa thèse à Besançon sur la liberté académique, qui vient de publier chez Dalloz, dans le droit de savoir, la liberté académique de A à Z, qui est un instrument de travail très précieux. Et elle rappelle dans ce petit livre une décision du Conseil constitutionnel qui est intéressante sur la loi Toubon, sur la langue. C'est la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994. Cette loi Toubon, sur la langue française, prévoyait que l'octroi d'aides publiques au profit de travaux d'enseignement et de recherche était subordonné à l'engagement d'assurer une publication ou une diffusion en français, sauf dérogation. Et donc, évidemment, les membres du Conseil constitutionnel, ici, dans cette affaire, ont mis en balance la liberté de communication, d'un côté, et le principe qui figure désormais dans la Constitution, l'article 2, la langue de la République est le français. Donc ils ont fait des conciliations classiques entre les deux. Et ils ont considéré que la disposition était contraire à la Constitution, en jugeant, je cite, que même compte tenu des dispositions de l'article 2 de la Constitution, le législateur a imposé, par le second alinéa de l'article 7, aux enseignants et chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers, des contraintes de nature à porter atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication dans l'enseignement et la recherche. Donc, ils ont invoqué l'article 11, la liberté de communication, c'est-à-dire qu'ils ont invoqué, évidemment, l'article 11, qui est un droit de l'homme. Et on voit bien ici le problème. Évidemment, ce n'est pas un droit de l'homme, puisque je vous ai dit qu'en l'occurrence, ici, ils auraient dû invoquer la liberté d'expression académique, intra-académique. Ce qui veut... qui évidemment ici pose un problème que la Cour européenne des droits de l'homme rencontre de façon pertinente. Dès lors que vous n'avez pas dans des textes la reconnaissance de la liberté académique, eh bien les juridictions sont obligées d'aller chercher ailleurs que dans les textes sur la liberté académique le moyen de défendre la liberté d'expression des universitaires. Et c'est ce qu'ils font de façon récurrente. Ici, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel se réfère à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans une jurisprudence très extensive que j'ai très peu évoquée, très riche, invoque systématiquement l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais là, encore une fois, c'est l'article 10, c'est la liberté d'expression extra-académique en tant que droit de l'homme. Et donc, l'absence de reconnaissance de la liberté académique pose effectivement des difficultés sérieuses. Alors, on pourra peut-être s'en sortir. Je donne un motif d'espoir. C'est qu'en droit positif, on a désormais une reconnaissance de la liberté académique dans la Charte de l'Union européenne des droits fondamentaux, à l'article 13. Et donc, dans l'affaire Soros, Commission contre Hongrie, qui est une affaire très importante de la Cour européenne, de Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne s'est fondée sur la Charte européenne des droits fondamentaux pour dire qu'il y avait une liberté académique. Et donc on peut espérer, sait-on jamais, que les juridictions françaises prennent en compte désormais la liberté académique, non pas telle qu'elle est reconnue dans les textes de droit français, mais telle qu'elle est reconnue également dans les textes de droit de l'Union européenne, où on peut espérer que les avocats puissent désormais se référer à ce droit européen pour peut-être, améliorer la situation juridique. Un dernier mot pour conclure, et ça sera un peu paradoxal. Pour ma part, je suis juriste, mais je crois assez peu à l'utilité du droit dans la défense de la liberté académique. Je pense que l'excès de contentieux est très nuisible. Je pense que ce qui manque le plus, c'est la défense par les universitaires de leurs propres droits. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, par une résistance qui est quotidienne au diktat de l'administration, à l'autoritarisme des présidents, et que, comme toujours, à mon avis, parce que je suis quand même resté très fidèle à ce que j'avais lu de Jean Carbonnier, le droit doit toujours être moins important que les mœurs, et que le vrai problème, c'est la situation des mœurs universitaires, et que c'est ces mœurs qu'il faut essayer de reconstituer. Elles ne peuvent, les seuls qui peuvent défendre utilement la liberté académique, ce sont d'abord et avant tout les universitaires. Les politiques, de toute façon, instrumentalisent tous les débats, donc il ne faut pas compter sur eux. Et les juges, eh bien, ils ont un matériel juridique qui est très peu pertinent. Et quant au Conseil d'État, eh bien, il a une image qui n'est pas très positive des universitaires français. Et toute sa jurisprudence tend à le montrer. Je vous renvoie à ce que j'ai écrit dans le livre de 2010, où je fais une critique très acerbe de la jurisprudence du Conseil d'État sur les libertés universitaires. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.